Bienvenue dans le débat, notre espace de discussion où on croise nos perspectives sur les grands enjeux politiques. Aujourd'hui, on se plonge dans les résultats officiels des élections turques de 2018. Le dissident, salut tout le monde.
Ouais, une élection vraiment fascinante.
Totalement. C'est le moment précis où Recep Tayyip Erdogan acte la disparition du poste de Premier ministre pour vraiment concentrer tous les pouvoirs exécutifs entre ses mains.
Avec 52,5% au premier tour.
C'est ça. Mais avec un paradoxe énorme, parce que cette même élection, elle le rend dépendant d'un parti nationaliste minoritaire.
Exactement. Et c'est là qu'est notre question centrale aujourd'hui. Est-ce que cette victoire, c'est l'aboutissement d'une omnipotence absolue, ou est-ce que ça révèle des fragilités structurelles inattendues ?
Moi, en tant qu'analyste, je suis convaincue qu'on a affaire à une ingénierie politique redoutable. Il a verrouillé l'appareil d'État, pur et simple.
Le dissident. Alors moi, je suis nettement plus sceptique. Quand on regarde la mécanique de ce nouveau système, je trouve que les mathématiques électorales et surtout la dynamique de l'opposition imposent des limites hyper claires à cette autorité. Il s'est un peu piégé lui-même en fait.
Piégé, c'est un grand mot. La manœuvre tactique de base, elle est quand même brillante. Il faut se rappeler le contexte. Il décide d'avancer le scrutin de plus d'un an, juste pour devancer une crise économique qui s'annonçait violente.
Le dissident.
Ouais, l'inflation à plus de 10%, la livre qui commençait à dévisser.
Voilà, la monnaie qui chute. Donc l'objectif, c'était de sécuriser son système sur mesure avant que ça craque.
Et il a réussi. Il s'octroie le pouvoir de légiférer par décret, de nommer les ministres, de meudler la haute magistrature. En fait, il s'affranchit totalement des lenteurs du Parlement.
Le dissident ? Mais c'est là que je te rejoins pas du tout. Son cadre institutionnel, aussi vertical soit-il, il se heurte à la réalité du Parlement, justement. L'AKP, son parti, a reculé. Il plafonne à 42%.
Ouais, mais il garde la main quand même.
Le dissident ? Ils perdent la majorité absolue. 295 sièges sur 600. C'est ça le paradoxe fascinant. Ils créent un système hyper-présidentiel pour se libérer du Parlement, mais du coup, pour faire passer des lois ordinaires ou voter le budget, il est obligé de s'appuyer sur le MHP.
L'extrême droite nationaliste, oui.
Exactement. Ils ont 49 députés et ils deviennent les faiseurs de rois.
Il a troqué une contrainte institutionnelle contre une énorme vulnérabilité politique. Il est l'otage du MHP, tout simplement.
L'otage, je trouve ça fort. Cette vulnérabilité, elle pèse vraiment très peu face au pouvoir du décret présidentiel. Au quotidien, il n'a pas besoin du Parlement pour gouverner. Et puis regarde son assise électorale, surtout en Anatolie.
Le dissident.
Elle est d'une solidité incroyable. Ses électeurs y votent pour des choses concrètes. Le développement des infrastructures, les hôpitaux, les autoroutes. C'est une fidélité au bilan matériel qui dépasse largement les petites alliances parlementaires à Ankara.
Le dissident.
Le bilan économique, ça suffit pas à expliquer comment il se maintient. Faut pas oublier comment cette élection a été mécaniquement sécurisée. On parle d'un scrutin qui s'est tenu sous état d'urgence.
Ah oui, l'état d'urgence post-2016 ?
C'est vrai.
Voilà, un espace médiatique sous contrôle strict, des purges par dizaines de milliers dans la fonction publique. Utiliser l'appareil d'État à ce point pour étouffer le jeu démocratique, c'est pas vraiment la marque d'un pouvoir serein. C'est la preuve qu'il a besoin de mesures d'exception, tu vois. Je dis pas le contraire, l'état d'urgence crée un déséquilibre, c'est asymétrique. Mais dire que c'est qu'une victoire artificielle, ça sous-estime le verrouillage exécutif. Parce que fondamentalement, comment l'opposition peut peser face à un président qui gouverne par décret ? Les foules et les manifs, elles ont pas de stylo pour signer des lois, en fait.
Le dissident ?
Elles signent pas de loi, ouais, mais elles imposent des barrières sociologiques. C'est comme un ressort qu'on compresse. Regarde Noam Emine.
Ouais, son score était impressionnant.
31%. Il a rassemblé des foules immenses malgré le contrôle de l'État. Et encore plus frappant, le parti pro-kurde, le HDP.
Qui a franchi la barre des 10%, c'est ça le dissident ?
Absolument, 67 sièges. Et avec un candidat, Selahattin Demirtas, qui faisait campagne depuis une cellule de prison.
Ouais, c'est quand même fou.
Le dissident.
Mais c'est une résilience énorme.
Ces bastions dans l'Ouest et le Sud-Est montrent qu'un décret présidentiel, ça efface pas la diversité sociologique du pays.
C'est un super point. Du coup, on voit bien que la Turquie est vraiment à la croisée des chemins, là. D'un côté, on a une architecture constitutionnelle taillée pour l'hyperpuissance de l'exécutif. Et de l'autre, comme tu dis, un paysage électoral qui reste fracturé, mais super résilient. Ils sont obligés de coexister.
Exactement. Et pour moi, le vrai crash test de ce régime, ce sera la levée de l'état d'urgence. C'était une promesse de campagne. S'il le lève, on verra s'il est vraiment aussi fort qu'il le prétend ou s'il dépendait juste de ses outils pour masquer ses fragilités.
Tout à fait. C'est cette tension qu'on va devoir observer de près. La réalité des urnes face à la rigidité des institutions. En tout cas, le débat reste ouvert. Merci de nous avoir suivis. pour cette analyse et on vous dit à très vite pour continuer à creuser le sujet.